Le sommet sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie s'ouvre à Paris mercredi. Il est au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que l'on retrouve dans un instant. Alcide Ponga, nommé conseiller spécial de Bruno Retailleau, une responsabilité et un honneur pour tous les adhérents, militants et élus du Rassemblement, nous a-t-il dit. Les étudiants du BTS support à l'action managériale du lycée Blaise Pascal organisent la 10e édition des journées de formation et des métiers. Il s'agit de permettre aux futurs étudiants de choisir leur orientation. Dans la région, nouvelle saisie de drogue à Sydney, la police fédérale a mis la main sur 100 kilos de méthamphétamine. Et puis en métropole, tension au sein du bloc gouvernemental. Le projet pour introduire une dose de proportionnelle dans le scrutin législatif divise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. L'actualité sportive, ce sera dans le MAC des sports à retrouver dès la fin de cette édition. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François Bonnet.
Et on y parlera évidemment des mini-jeux du Pacifique à Palau qui sont officiellement ouverts.
Oui, à Palau, un coup d'envoi sous des trompes d'eau. Mais la cérémonie d'ouverture, bien trempée, n'a pas empêché les délégations de montrer leur fierté pour ce grand défilé avec plus d'un millier d'athlètes du Pacifique. Et déjà aujourd'hui, les nageurs calédoniens plongent dans le grand bain avec des premières médailles qu'on espère arroser ce soir.
Les mini-jeux, on en parlera aussi avec notre invité.
Oui, Axel Raymond, champion de France et vice-champion du monde, Masters de force athlétique qui poursuit sa route dans cette discipline mais qui est également ancien porte-drapeau et président de la commission des athlètes au CTOS. Il sera dans nos studios ce midi.
Dans les résultats sur la scène nationale et internationale, on retiendra que le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs.
Oui, toujours à la poursuite du rêve américain. Les Parisiens ont écarté l'Inter Miami de l'ancienne star parisienne Léo Messi. Large victoire 4-0 pour rallier les quarts de finale. À présent, un gros client en vue, le Bayern Munich au menu pour le PSG, dernier vainqueur de la Ligue des Champions, qui se verrait bien remporter ce premier mondial des clubs au nouveau format voulu par la FIFA.
Voilà, on se retrouvera pour développer toute l'actualité sport dans le MAG à la fin de ce journal. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie à Paris, le sommet annoncé par Emmanuel Macron s'ouvre le 2 juillet. La plupart des délégations qui prendront part aux discussions ont déjà pris l'avion, délégations politiques bien sûr, mais aussi représentants du monde économique et de la société civile. Un sommet qui est au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que l'on retrouve tout de suite.
Je ne voudrais pas jouer les rabat-joies, mais il ne faut sans doute pas attendre monts et merveilles du sommet sur la Nouvelle-Calédonie qui s'ouvre mardi à Paris. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est bien que ce sommet se tienne, parce que l'on ne pouvait pas rester sur l'échec cauchemardesque de Deva et qu'il faut continuer à chercher une issue à l'impasse dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie. C'est bien aussi que le président de la République ait décidé de prendre la main sur le dossier, parce que cela prouve que c'est une préoccupation au plus haut niveau de l'État. C'est bien enfin parce que le projet d'indépendance association du ministre des Outre-mer et sa position par trop clivante n'ont fait qu'aggraver la situation en rendant impossible tout consensus et que la Calédonie a besoin de réponses. Mais une fois que l'on a dit ça, on est obligé de constater que, sauf miracle, les conditions ne sont pas réunies pour un accord. L'immobilisme, voire l'inertie du FLNKS, qui, contre tout réalisme, ne veut parler que de pleine souveraineté, n'est pas propice à la recherche d'un consensus. Et puis Emmanuel Macron n'est pas un magicien, et à moins qu'il n'ait dans la manche une solution providentielle, le projet nouveau qu'il appelle de ses voeux semble encore très hypothétique. Mais il faut avancer pour ne pas désespérer, et c'est la raison pour laquelle ces prochains jours, toute la Calédonie aura les yeux rivés sur la capitale, où se déroulera ce sommet consacré à la Nouvelle-Calédonie, auquel le président de la République a tenu à associer l'ensemble des acteurs du territoire. L'ordre du jour et le format sont encore très incertains, à moins de 24 heures du début de l'événement, mais on sait que beaucoup, beaucoup de Calédoniens ont fait le déplacement. Groupes politiques, maires, membres des chambres consulaires, responsables économiques, syndicaux, coutumiers, la liste est impressionnante et le chef de l'État a prévu deux volets, l'un consacré aux sujets institutionnels qui sont majeurs, écrit-il, et l'autre dédié aux enjeux économiques et sociétaux. C'est ce second volet qui devrait permettre des avancées. On peut notamment espérer que l'État prendra à cette occasion la mesure des besoins économiques et financiers de la Nouvelle-Calédonie et qu'un accord pourra être trouvé sur une aide substantielle qui permettrait de relancer la machine. L'autre sujet qui devra être tranché, et qui pourrait l'être, c'est celui des élections provinciales et concomitamment celui du corps électoral. Alors là, c'est la bouteille à l'encre, mais c'est chronologiquement le plus urgent, parce que le compte à rebours est enclenché si le scrutin doit avoir lieu avant le 30 novembre. Et voilà que le Conseil d'État rebat les cartes en transmettant au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l'association Un cœur, une voix. Plusieurs cas de figure sont possibles, mais si jamais le Conseil constitutionnel censurait le gel du corps électoral, ce serait un véritable coup de tonnerre. Il a en outre 3 mois pour rendre sa décision, ce qui nous amène, petit clin d'œil du destin, au 24 septembre 2025. En attendant, cette question met la pression sur tous les acteurs et elle ajoute encore une inconnue au dossier calédonien, mais elle peut aussi inciter à trouver un petit accord sur le corps électoral, quitte à laisser la recherche d'un grand accord à la prochaine mandature issue des provinciales. Le sommet de Paris n'apportera sans doute pas de réponse globale, mais il pourrait au moins permettre de débloquer en partie la situation. Et au point où on en est, ce ne serait déjà pas si mal.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver sur notre site internet, à réécouter également sur notre antenne. Ce sera juste après le flash de 16h cet après-midi. Alors, quelles peuvent être les conséquences de la transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC sur le gel du corps électoral? Nous en avons parlé ce matin avec Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix, qui défend les exclus du corps électoral. Son association a déposé une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil d'État a transmis au Conseil constitutionnel. Il nous a expliqué le sens de cette démarche.
L'association Un cœur, une voix, elle a demandé aux institutions, aux juridictions et notamment aux plus hautes juridictions nationales, est-ce que c'est légal d'exclure une partie de la population du corps électoral? Donc simplement, le Conseil d'État a estimé qu'il fallait peut-être se pencher sur la question et plutôt que de nous retoquer, puisque c'est la première fois qu'une association ou quelqu'un passe le Conseil d'État, transmet au Conseil constitutionnel et dit au Conseil constitutionnel « Merci de bien vouloir examiner la demande et la requête de l'association Un cœur, une voix. Elle nous semble légitime. Merci de nous donner votre position et votre avis. »
Le fait que cette QPC ait été transmise au Conseil constitutionnel, c'est déjà une victoire pour l'association Un cœur, une voix, souligne Raphaël Romano. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le corps électoral va être dégelé.
Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Hein. On n'a jamais menti aux Calédoniens. La probabilité de passer le Conseil d'État, de passer la Cour de cassation, elle était de 0,0001%. Elle était de l'épaisseur d'un papier de cigarette. Elle était peu probable. D'ailleurs, si on avait écouté les gens autour de nous, on n'y serait jamais allé. Ce sont des recours qui coûtent énormément d'argent. Si on ne l'avait pas fait, on aurait eu l'impression d'un travail inachevé. Les membres du bureau, le pool d'avocats qui travaillent sur le dispositif, il est convaincu de la légitimité de ce recours et de ces recours. Donc on n'abandonnera pas, on ne laissera pas les Calédoniens dans cette situation. J'ai envie de dire, et on a envie de dire, soutenez-nous, on vous soutient et on fait le maximum pour sortir de cette aberration juridique, indépendamment du temps politique. D'ailleurs, c'est paradoxal, mais on a eu les réponses avant la convocation et l'invitation du président de la République. Donc les politiques, ils vont faire leur travail. Nous, ce qu'on défend, c'est quelque chose de juridique, c'est les droits fondamentaux, c'est l'état de droit, et on espère que les sages du Conseil constitutionnel, même si la probabilité encore là, elle est très faible, se prononceront en faveur du dégel du corps électoral.
Et Raphaël Romano nous a expliqué les scénarios qui étaient possibles aujourd'hui.
Sans présager des dispositions et des décisions du Conseil constitutionnel, il y a 3 possibilités. Soit le Conseil constitutionnel retoque les 2 questions prioritaires de constitutionnalité, et là, nous, on poursuit, on va à la Cour européenne des droits de l'homme, on poursuit jusqu'à épuisement de toutes les voies juridiques. Et ça me paraît peu probable qu'il se prononce en ce sens-là. Soit il dit le corps électoral, il est réouvert, parce qu'en fond, on est en France. En Nouvelle-Calédonie, c'est la France, la loi s'applique en Nouvelle-Calédonie, 6 mois et un jour, tout le monde peut voter. Ou alors il dit au gouvernement de la République, à l'exécutif national, vous avez un délai, 6 mois, 8 mois, pour trouver un accord, pour faire une proposition sur un corps électoral dédié à la Nouvelle-Calédonie.
Une interview du président de l'association Un cœur, une voix, qui est à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Alcide Ponga fait son entrée dans l'organigramme des Républicains. Plus d'un mois après son élection à la tête du parti, Bruno Retailleau a dévoilé samedi sa nouvelle organisation lors de la réunion d'un Conseil national. Il s'est entouré de 13 vice-présidents ainsi que d'un bureau politique et d'une commission d'investiture renouvelée. Le président des Républicains a également nommé 4 conseillers spéciaux, parmi lesquels Alcide Ponga, le président du Rassemblement LR. La réaction d'Alcide Ponga à cette nomination.
Personnellement, c'est déjà un honneur, une responsabilité, mais je vais dire aussi que c'est un honneur plus collectif. Ici, le rassemblement, c'est plus de 1000 adhérents, ce sont des gens qui suivent, ce sont des équipes qui travaillent, ce sont des élus au congrès, ce sont des élus au gouvernement, ce sont des conseillers municipaux, des maires, ce sont des gens au conseil économique et social, etc., etc., dans les provinces et tout. Donc voilà, le rassemblement ici en Nouvelle-Calédonie, c'est ça, et c'est aussi une reconnaissance du Parti national vis-à-vis de toutes ces personnes-là qui assument ces fonctions. fonction politique par conviction. Et donc, ce que je peux dire aussi, c'est que chez les Républicains en France, en nous confiant cette responsabilité-là en tant que président du parti local, ça démontre l'intérêt que les Républicains ont pour la Nouvelle-Calédonie à ce moment précis-là de l'histoire où nous essayons de chercher avec les partenaires, avec l'État, une solution de sortie pour l'accord de Nouméa et d'inscrire la Nouvelle-Calédonie dans ce que les Calédoniens ont décidé par trois fois déjà.
Et les trois autres conseillers spéciaux de Bruno Retailleau sont la députée Michèle Tabarot, l'ancien eurodéputé Arnaud Dangean et l'ancien président de la CGPME François Asselin. Alcide Ponga, qui est aussi président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, quitte le territoire ce soir pour participer au sommet sur l'avenir institutionnel qui se tient à Paris le 2 juillet. En bref, une mesure injuste, inacceptable et méprisante, c'est ce qu'on peut lire dans un communiqué publié ce matin par l'UTCFE-CGC. Le syndicat s'indigne de la décision du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de geler les avancements des agents de la fonction publique territoriale pour 2 ans. Une décision prise lors de la séance du 25 juin dernier. Pour le syndicat, cette décision est, je cite, « une attaque frontale contre celles et ceux qui œuvrent chaque jour au service du plus grand nombre pour enseigner, soigner, protéger, accompagner et maintenir le lien social ». Fin de citation. Il est 11h42. Dans un instant, on se retrouve pour la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre enfant envisage des études à l'étranger ? Le Salon Gayfreddy vous accompagne dans ses projets d'orientation post-bac. Vendredi 4 après-midi et samedi 5 juillet au CREPAC à Nouville. Infos sur les démarches, les pays, les aides. L'entrée est libre. Plus d'infos sur Facebook.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité sur le territoire et la 10e édition des journées de formation et des métiers du lycée Blaise Pascal a démarré ce matin pour 3 jours. Ces journées permettent de découvrir l'ensemble des formations proposées dans l'établissement, mais pas seulement. Il y a aussi des formations du CNAM, de l'université, mais aussi l'ensemble des métiers présents sur le territoire. Un événement intégralement organisé par les étudiants du BTS SAM, support à l'action managériale, et épaulé par ceux en BTS Banque.
Pour ces journées, nous avons organisé les plannings, nous avons fait des relances par rapport aux intervenants et tout. Ensuite, aujourd'hui, on s'occupe de l'accueil des intervenants, afin de les diriger vers leurs salles qui leur sont réservées.
Avec ma classe, on est chargé de suivre le planning du coup de BTS SAM, qui est passé juste avant. Et on est dispatché en fait dans plusieurs classes. Et puis là, on supervise l'organisation de la classe, on rappelle à l'ordre quand c'est nécessaire.
Déjà, par rapport à l'organisation, ça nous apprend aussi à être polyvalent, vu qu'on fait beaucoup de choses, on intervient dans plusieurs endroits. Aussi pour la communication à l'oral, ça nous aide beaucoup.
C'est aussi super intéressant parce qu'on a des relations avec les professionnels, donc du coup ça travaille notre posture professionnelle. Et puis aussi ça assertit notre autorité parce qu'on est face à une classe et il faut vraiment maintenir l'ordre.
Et ces journées de formation et des métiers du lycée Blaise Pascal continuent cet après-midi à partir de 13h20 jusqu'à 15h30. Elles se poursuivent demain toute la journée et mercredi matin. À Boulary, c'est la 16e édition d'Handicapable qui a débuté aujourd'hui au complexe culturel et sportif Victorin Boeva. Organisé par le Centre communal d'action sociale du Mont d'Or, cet événement met en avant les capacités des personnes en situation de handicap. 500 élèves de la primaire au lycée vont ainsi participer à 2 ateliers, des expositions ou des temps de sensibilisation, avec en point fort de la semaine la matinée en dynamique, prévue mercredi avec un job dating entre entreprises et demandeurs d'emploi porteurs de handicap. Dominique Bégaud, la directrice du CCAS, rappelle l'importance de l'inclusion professionnelle et de la sensibilisation auprès des jeunes.
Le but, c'est de faire rencontrer des entreprises et des demandeurs d'emploi, donc travailleurs handicapés, mais aussi d'apporter de l'information aux entreprises. Ça, c'est la 3e édition. On se rencontre au fil du temps, malgré toutes les informations, malgré la publicité qui peut être faite. Il y a encore beaucoup de méconnaissances sur les dispositifs qui existent pour les travailleurs handicapés. C'est de faire connaître leurs compétences, malgré un handicap. handicap, quelles compétences ils peuvent avoir et qu'est-ce qu'ils peuvent offrir aux entreprises. C'est important parce que je pense qu'on n'en fera jamais assez. L'idée, c'est aussi de semer des petites graines, j'allais dire, au sein des établissements scolaires et puis que derrière, eh ben, les professeurs, les instituteurs s'emparent du sujet et puissent travailler au sein de leur classe sur le sujet.
Dominique Bégaud, la directrice du CCAS du Mont d'Or. Les élèves pourront pendant cette semaine participer à des parcours en fauteuil, une initiation à la langue des signes ou encore des jeux sensoriels. Cette semaine se clôturera vendredi après-midi avec un spectacle de chant et de danse réalisé par des personnes en situation de handicap. Les baleines à bosse sont de retour, ce qui signifie que la saison des sorties baleines est lancée. Et comme chaque année à cette occasion, la province sud ouvre la saison d'observation par une matinée de formation et de sensibilisation à destination des professionnels du secteur, Léo Fichou.
Oui, ce matin, une trentaine de professionnels a reçu les pavillons et attestations de formation obligatoires pour proposer des sorties baleines. Ils étaient réunis au CAPS et ont suivi une formation de 4h30 sur les bons comportements à tenir en matière d'observation des baleines à bosse. Patrice Plichon, responsable des gardes nature de Nouméa.
On rappelle les règles d'observation et puis aussi un point sur l'actualité scientifique parce qu'on a de la chance en Calédonie d'avoir des scientifiques qui travaillent depuis très longtemps sur les baleines, donc ils nous font part tous les ans un peu des progrès de la recherche. Et puis ça permet aussi de se retrouver tous parce qu'il y a pas mal de changements dans les opérateurs professionnels, des nouveaux, des gens qui partent, qui reviennent. Ben voilà, donc ça permet de tous se retrouver et de se caler un petit peu avant le début de la saison. De s'organiser un petit peu aussi sur le plan d'eau. On va faire le point un petit peu comment on s'organise pour les histoires de vigie, comment on communique ensemble sur le plan d'eau entre et les opérateurs professionnels et la province qui gère et qui surveille l'activité et les scientifiques. Quand on voit des baleines, généralement, elles ne vont pas s'enfuir, elles ne vont pas disparaître. Donc il faut vraiment prendre son temps pour venir calmement les observer. Généralement, ça se passe bien. Il ne faut pas se précipiter.
Et parmi la trentaine de professionnels, il y avait notamment Gilles Wattelot, gérant d'Aito Charter, l'un des plus anciens opérateurs puisqu'il propose depuis 20 ans des sorties baleines. Et donc, comme chaque année, il participe à cette formation, un moment essentiel pour lui.
C'est bien, on discute un petit peu avant la saison. Ça permet aussi de rappeler un peu les règles à tout le monde. Puisqu'en fait, pour la saison des baleines, on travaille tous en commun sur le plan d'eau. C'est beaucoup plus facile de les repérer quand on travaille en symbiose tous ensemble plutôt que de travailler chacun de son côté. Il y a une partie pédagogique à aborder nos catamarans. Donc plus on acquiert de l'expérience et on récolte des informations données par des associations spécialisées, style opération cétacé, plus on va pouvoir redonner cette information à nos clients qui embarquent à bord de nos catamarans. Malgré les 20 années d'expérience, ça me met toujours la chair de poule quand les baleines elles veulent montrer un beau spectacle, comme ça arrive certains jours.
Et je rappelle que les règles d'observation des baleines concernent aussi les plaisanciers. Toutes les informations sur la réglementation sont à retrouver sur le site internet de la province sud.
L'actualité dans la région avec une nouvelle saisie de drogue en Australie. Plus de 100 kilos de méthamphétamine ont été découverts à Sydney par la police fédérale, qui a aussi démantelé un laboratoire clandestin dans la banlieue de la capitale du New South Wales. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette opération a eu lieu suite à la détection par les douanes et la police aux frontières des États-Unis, de 27 kilos de méthamphétamine dissimulés dans des couvertures en provenance d'Amérique du Sud et destinés à l'Australie. Alertée, la police fédérale a procédé à plusieurs perquisitions dans la banlieue de Sydney, perquisitions qui ont abouti à la découverte de plus d'une centaine de kilos de méthamphétamine dont la valeur à la revente a été estimée à près de 7 milliards 500 millions de nos francs. 600 litres de solvant, de même que des appareils électroniques, ont également été saisis. Les agents fédéraux ont aussi procédé au démantèlement d'un laboratoire clandestin. Bizarrement, la police fédérale n'a toujours procédé à aucune arrestation et a simplement précisé dans un communiqué que les enquêtes en cours se poursuivent. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Dans quelques secondes, il sera 11h50, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez du kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1090 francs seulement. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans vos 4 magasins à Pogoti, Magenta, Faubourg et Vata. Maison Thirier, goûtez, ça change du surgelé.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag avec vous, Jean-François Baudin.
On commence par l'actualité en métropole avec cet avis de tempête au sein du bloc gouvernemental. Le Premier ministre François Bayrou veut relancer le débat sur l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Le Rassemblement national et la gauche y sont plutôt favorables, mais le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, refuse de défendre le texte. La marge de manœuvre de François Bayrou est donc réduite. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Avec la proportionnelle, François Bayrou prend le risque de fissurer son camp. Premier obstacle, son ministre de l'Intérieur, vent debout, Bruno Retailleau dénonce un bazar permanent à l'Assemblée et le retour au régime des partis. Hostile depuis le début, il avait déjà menacé de démissionner si on l'obligeait à porter cette réforme. Gabriel Attal, lui, s'y dit favorable à titre personnel, mais refuse d'engager l'ensemble du groupe macroniste, une prudence révélatrice du malaise chez Renaissance, où plusieurs députés redoutent une perte de stabilité. Horizon, le parti d'Édouard Philippe qui participe également au gouvernement et contre. Le Front du Non inclut en outre une grande partie des députés du groupe Liotte. François Bayrou assume le pari et compte sur sa pédagogie pour convaincre, mais au sein du socle commun, l'équation reste loin d'être résolue.
Le retour de la loi Duplomb, du nom du sénateur LR Laurent Duplomb, qui en est le co-auteur. Une loi censée lever les entraves à l'exercice du métier d'agriculteur. Pour certains, et notamment la Confédération paysanne et les détenteurs de l'environnement, c'est une loi toxique et dangereuse. Pour d'autres, comme la FNSEA et les jeunes agriculteurs, elle doit au contraire permettre de lever un certain nombre de blocages. Elle correspond en tout cas, explique le vice-président des jeunes agriculteurs, Alexis Roptin, à une grande partie des revendications du monde agricole exprimées lors de leur mouvement de colère il y a maintenant plus d'un an.
Cette proposition de loi, elle est essentielle pour répondre aux attentes des agriculteurs, apporter des solutions issues de la crise agricole profonde qu'il y a eu l'hiver dernier, comme par exemple l'accélération des procédures d'autorisation sur certains produits phytosanitaires, notamment pour les filières qui sont dans des impasses techniques. Je pense à la noisette, par exemple. On a des enjeux sur l'eau, mieux préserver les ressources et puis protéger l'agriculture quant à son utilisation.
La loi Duplomb sera examinée à partir de mardi par une commission mixte paritaire. En bref, une rixe à Mâcon qui impliquait 80 personnes environ, dont certaines étaient armées de machettes ou de barres de fer. On n'en connaît pas encore l'origine. Un homme de 27 ans issu de la communauté turque a été grièvement blessé. 6 autres personnes ont été blessées plus légèrement, dont un policier et 2 gendarmes qui étaient hors service. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte et une personne a déjà été placée en garde à vue. Et puis c'est aujourd'hui l'entrée en vigueur de la loi contre le tabagisme. Il est désormais interdit de fumer sur les plages, sous les abribus ou à proximité des écoles. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros, c'est-à-dire environ 16 000 francs. À l'étranger, le cessez-le-feu tient toujours entre Israël et l'Iran. Cela fait une semaine maintenant que les armes se sont tues après 12 jours de guerre. En revanche, Israël intensifie son action militaire au nord de la bande de Gaza où des consignes d'évacuation ont été émises. Israël veut éradiquer le Hamas. Dans la ville israélienne de Sderot, près de la frontière nord de Gaza, la tension reste très forte. Le reportage de Winfried de Villers pour Europe 1.
Sur la colline qui surplombe la ville, un épais nuage de fumée s'élève à l'horizon. La frontière de Gaza est à moins de 300 mètres. L'armée israélienne, en pleine opération, dans la direction opposée au cœur de Sderot, Almog entend quotidiennement les détonations de l'artillerie.
Il y a des bombardements toutes les nuits. Le 7 octobre, une roquette est tombée dans mon jardin et a tout explosé. Depuis, je suis traumatisé et suivi par un psychiatre. Alors oui, j'ai envie que tout cela s'arrête.
Sauf qu'une fin proche du conflit, le jeune homme n'y croit plus.
Toutes les guerres que l'on a eues ces derniers temps, comme avec l'Iran, elles ont duré 2 semaines maximum. Celle avec Gaza, ça fait presque 2 ans. Et ça va continuer parce qu'il s'agit pour le Hamas de trouver d'autres financements et fournisseurs d'armes. C'est sûr qu'ils en trouveront.
Une nouvelle détonation résonne dans les rues presque vides. Derrière ses fines lunettes, Rachel hausse les yeux d'un air agacé.
Est-ce que je suis optimiste quant à la fin de cette guerre? Malheureusement non. Avec le Hamas, il n'y a pas de paix possible. J'espère seulement que l'on va pouvoir passer un accord pour les otages. Mais un cessez-le-feu va permettre au Hamas de se réorganiser.
La libération des otages seule façon d'envisager un premier pas vers la paix, confirme un soldat en armes qui dit en même temps qu'il faut aller jusqu'au bout contre le Hamas.